Céline Landreau et Vincent Parisot.
Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, 2h30 d'infos, comme vient de dire Julien, d'infos, mais aussi de reportages, d'invités et d'opinions. Les vôtres, évidemment, on vous attend jusqu'à 14h30, un seul numéro pour réagir à l'actualité et pour témoigner. C'est le 32-10-3-2-1-0. D'ici là, jusqu'à 13h, toute l'info, et ça commence avec vous, Céline Landreau. Bonjour Céline.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et à la une, deux ados hospitalisés, l'un d'entre eux entre la vie et la mort, deux victimes tabassées en plein après-midi à la sortie de leur collège. Samara à Montpellier, Shamsedine à Véry-Châtillon. Pour l'instant, difficile d'expliquer les motivations de ces déchaînements de haine, mais ils interrogent sur la place des réseaux sociaux, sur le rapport qu'entretient cette génération avec la violence. Nos ados sont-ils plus violents qu'avant, au-delà de l'émotion légitime, du ressenti? On va tenter dans cette édition d'y voir plus clair. À suivre aussi, Alain Delon, placé sous curatelle renforcée. À 88 ans, la star du cinéma français n'a donc plus le droit de gérer son argent. C'est bien une décision qui n'est pas forcément justifiée pour Franck Berton. L'avocat de sa fille Anouchka était sur RTL ce matin.
Je pense que cette mesure est excessive. Puis en plus, elle est humiliante quand même. C'est quelque chose pour lui qui est difficile à vivre ou doit être difficile à vivre.
Alors, la curatelle renforcée, les tensions dans la famille Delon, on y reviendra en détail à 12h40. Avant cela, dans 20 minutes, RTL Midi, votre vie. On va parler dénutrition, danger méconnu des Français, mais risque réel. Attention donc au régime, notamment à l'approche de l'été. À partir de 13h, un seul numéro, Vincent, le 3210. Et les auditeurs ont la parole.
Voilà, pour réagir à tous ces sujets de l'actualité que vous venez d'évoquer. Je pense notamment à ces scènes d'ultra-violence à la sortie des collèges. Comment y faire face? Est-ce qu'il faut mettre un policier à la sortie de chaque collège? Faut-il s'interroger également sur le rôle joué dans les réseaux sociaux autour de cette banalisation de l'ultra-violence? On en parle au 3210 et on vous attend, on attend vos témoignages. On parle de l'eau également, de l'eau en bouteille. Les scandales se multiplient. Le dernier en date, c'est cette enquête qui montre une contamination généralisée des eaux de Nestlé. Est-ce que ça vous interroge? Est-ce que vous avez l'intention d'arrêter de boire de l'eau en bouteille, en tout cas de l'eau en bouteille en plastique? N'hésitez pas, 3210. Et puis ensuite, on parlera de Dacia un peu plus tard. L'antifrime, la victoire de l'antifrime en voiture.
Une parenthèse estivale cet après-midi, surtout demain, jusqu'à 30 degrés attendus dans le sud-ouest du pays. Et il est bientôt pour voir le mercure monter si haut. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour, oui, c'est vrai qu'on a une bonne saison d'avance pour le coup. Alors ça va durer 48 heures, donc on s'emballe pas non plus. Mais c'est vrai que cet après-midi, déjà, on va atteindre 30 degrés au pied des Pyrénées.
Merci Valérie, et les détails à la fin du journal.
RTL Midi.
Il a été retrouvé dans une rue près de son collège entre la vie et la mort. Beaucoup d'incompréhension aujourd'hui à Viry-Châtillon après la violente agression d'un ado de 15 ans. C'était hier en milieu d'après-midi. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat et violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire. Bonjour Hermine Leclèche.
Bonjour.
Vous êtes justement pour RTL devant ce collège qui a rouvert ses portes ce matin aux élèves en état de choc.
Oui, des élèves, des parents, aux traits tirés, marqués par la violence de l'agression. Ils jettent des regards inquiets à la rue perpendiculaire au collège, là où la victime a été rouée de coups. Anis sortait de sa classe. Il me raconte avoir vu à ce moment-là trois agresseurs aux abords de l'établissement.
Ils étaient tous habillés en noir. Il y en avait juste un, il avait un bas blanc. Sinon, ils avaient tous des cagoules et j'ai préféré fuir. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est parti du tabac tout là-bas. Et lui, il a voulu courir pour rentrer chez lui. Et ils l'ont suivi, ils l'ont ramené ici. Et c'est là que ça s'est aggravé. J'en tremble. Hier, j'en ai pleuré toute la soirée et ça me fait peur.
Voilà, comme lui, beaucoup de collégiens et de riverains me confient ce midi leur crainte. Celle de retourner dans l'établissement, pourtant peu habitué aux violences. Kamel est un ami de la famille.
J'étais avec le téléphone, là, il n'y a même pas 10 minutes. Là. Ils sont choqués, attristés, ils sont dépités, ils sont hyper choqués. Quoi qu'il arrive, ça ne mérite pas tout ce qui s'est passé.
Un collégien en état de choc me confiait aussi avoir croisé la victime quelques heures seulement avant son agression, ne pas en revenir. Alors une cellule d'écoute est ouverte. Les forces de l'ordre patrouillent devant les grilles du collège depuis ce matin, car beaucoup ici ont peur que les agresseurs reviennent et s'en prennent à d'autres adolescents.
Hermine Leclèche à Viry-Châtillon pour RTL.
Et cette agression, elle fait écho évidemment à celle mardi dernier de Samara à Montpellier cette fois.
Agressée elle aussi à la sortie de son collège. L'adolescente sortie du coma est toujours hospitalisée. Les trois suspects, trois ados qui avaient été interpellés mercredi, ont quant à eux été transférés au palais de justice de Montpellier ce matin en vue de leur mise en examen. Alors les ados sont-ils plus violents qu'avant, au-delà de l'émotion que provoquent ces drames? Est-ce que c'est quantifiable? On y reviendra après le journal avec Cécile Mamelin, aujourd'hui vice-présidente présidente de l'Union syndicale des magistrats. Elle a aussi été longtemps confrontée à ces sujets en tant que juge pour enfants. Et puis près de 3 semaines après la disparition d'un couple de boulangers originaires du Tarn-et-Garonne lors de leurs vacances à Madère, les autorités portugaises ont annoncé hier la découverte du cadavre d'une femme repérée par un randonneur. Son identification est en cours et des recherches se poursuivent dans l'espoir de retrouver l'autre membre du couple.
Question, les agriculteurs pourront-ils, oui ou non, bénéficier de prix plancher ?
L'Assemblée nationale a en tout cas adopté cette nuit en première lecture une proposition de loi écologiste en ce sens, contre l'avis du gouvernement. Le texte, Marie-Bénédicte Allaire, prévoit un prix minimum d'achat par filière.
Oui, un prix qui serait fixé par une conférence publique ou, à défaut d'accord, par le gouvernement lui-même pour déterminer donc des prix planchers révisables tous les 4 mois et qui ne pourraient pas être inférieurs au coût de production. L'idée étant que les agriculteurs arrivent à être rémunérés au moins 2 fois le SMIC. Les écologistes se réfèrent à la promesse d'Emmanuel Macron d'instaurer des prix planchers alors qu'un texte des Insoumis avec le même objectif a été repoussé il y a quelques mois. Mais le gouvernement et la majorité affirment que la méthode n'est pas bonne et risquerait de favoriser les importations étrangères.
Alors, on a compris le principe du prix plancher, mais ce texte, donc, il a une chance d'aboutir ou pas ?
Écoutez, a priori, les chances paraissent minces, mais tout va dépendre de l'attitude de la droite quand il va arriver au Sénat, et la droite est majoritaire au Sénat. À l'Assemblée, LR n'a pas pris position. En ne votant pas, sur le revenu agricole, une mission a été confiée à 2 députés macronistes pour des propositions attendues cet été. Les écologistes assument donc d'avoir voulu placer le gouvernement au pied du mur. La députée écologiste Marie Pochon s'est réjouie d'une victoire concrète.
Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Le gouvernement qui autorise l'usage accru d'un pesticide pour aider les betteraviers à lutter contre le risque de jaunisse. Cette année, ils pourront faire jusqu'à 5 passages de Movento au lieu de 2. Le risque de jaunisse de la betterave provoqué par les piqûres de pucerons semble en effet très élevé en raison d'un hiver doux.
RTL Midi.
Sous la pression des États-Unis, Israël va donc permettre la livraison temporaire d'aide dans le nord de la bande de Gaza.
Oui, face à la famine qui progresse dans l'enclave, Washington demande à Israël d'organiser cela rapidement. Et après avoir pour la première fois conditionné son soutien militaire à l'État hébreu à cette aide humanitaire, Émilie Bojard, bonjour.
Et bonjour.
Est-ce qu'on sait déjà comment tout cela va s'organiser ?
Alors, on ne connaît pas encore tous les détails, mais l'aide humanitaire pourrait être acheminée et inspectée au port d'Ashdod en Israël, puis amenée par camion à Gaza par le point de passage d'Erez au nord de l'enclave. Un point de passage fermé depuis le 7 octobre. Il y a urgence pour les populations du nord de Gaza. 1 enfant sur 3 est atteint de malnutrition aiguë et la famine menace les 250 000 personnes qui survivent toujours dans cette zone. Ouvrir le point de passage d'Erez, c'est important. C'est un bon début, mais ça ne suffira pas à inverser la tendance, prévient Jonathan Crix d'UNICEF Palestine.
Il ne suffit pas de fournir du pain ou du riz pour faire en sorte qu'un enfant atteint de malnutrition aiguë aille mieux. C'est quelque chose qui prend des semaines et qui prend notamment, qui a besoin de produits alimentaires très spécifiques, notamment pour les enfants, et d'un soutien médical et d'un suivi médical important à apporter à ces enfants.
Mais le système de santé est à terre dans le nord de la bande de Gaza. Les associations humanitaires demandent un cessez-le-feu pour pouvoir distribuer l'aide alimentaire et médicale en toute sécurité.
Émilie Bojard du service international d'RTL. Le temps, Valérie Quintin, vous le disiez, ça s'envole dans le sud-ouest cet après-midi.
Oui, jusqu'à 30 degrés attendus à Pau aujourd'hui, 28 à Cahors, 24 degrés à Chambéry. On aura quand même 20 degrés à Paris, à Rouen, à Épinal, tout en bas de l'échelle Quimper, avec 16 degrés tout de même. Un temps très ensoleillé cet après-midi sur les 2/3 sud du territoire. On va garder cette petite bande légèrement pluvieuse entre la Vendée, l'Île-de-France et les Ardennes. Mais près de la Manche, là aussi, le soleil est quand même en passe de revenir assez nettement cet après-midi.
Merci Valérie.
Incroyable, 30 degrés à Pau.
Oui.
Et dans tout le secteur. Hein.
C'est ça, exactement. Dans tout le sud-ouest. Ça nous arrive du continent africain qui est très très chaud. Ouais. Pour l'instant, c'est l'effet de fun qui fait monter les températures. Ce week-end, on va avoir le sable en plus. Ça va être bien.
Bon, ben, ça, bah, le sable et la chaleur. Et ben, ça nous amène à vous, Margot Lufur, puisque c'est un jour chez vous et c'est un jour dans la chaleur dans cette région. On le disait donc jusqu'à 30 degrés demain, à Tarbes par exemple. En cette période de l'année, c'est assez exceptionnel. Hein.
Oui, normalement, début avril, à Tarbes, le thermomètre affiche plutôt 16 degrés. On est donc 12 degrés au-dessus des normales de saison. La raison de ce phénomène climatique, c'est de l'air chaud qui remonte en France depuis l'Afrique du Nord. C'est ce qui explique en partie ces températures estivales. Le réchauffement climatique accentue le phénomène. Tristan Hamm est prévisionniste à Météo France. Selon lui, il faut s'attendre à vivre de plus en plus tôt ces épisodes de chaleur.
des épisodes de chaleur précoce sont voués dans les années à venir à devenir de plus en plus intenses. C'est pas impossible qu'on observe des records. Déjà, à Biarritz, on a possiblement un record de minimale chaude. Eh bien, ça s'inscrit, en fait, dans cette logique du réchauffement climatique qui, entre autres, a pour conséquence de rendre des épisodes de douceur précoce de plus en plus intenses et de plus en plus précoces.
Le pic de ces températures estivales est prévu demain dans l'après-midi jusqu'à 30 degrés attendus à Tarbes. Et puis dimanche, ça va progressivement redescendre. On va perdre 9 degrés du jour au lendemain.
Il y en a qui ont le sourire malgré tout avec ces températures, Margot.
Oui, Céline, parce que quand il fait chaud comme ça, on a tous envie d'aller se déshydrater et donc, pourquoi pas, d'aller boire un petit verre sur la
terrasse. S'hydrater, pardon.
Et donc, pourquoi pas d'aller boire un petit verre sur la terrasse d'un café. Les commerçants et surtout les restaurateurs s'attendent à vivre un week-end aussi chargé qu'en été. Moïse Leroux-Toroval est directeur de l'échoppe des Galopins. Au programme demain, le musicien Nico Wayne Toussaint.
Un concert à 18h du coup pour la fin de la journée chaude avec la fraîcheur qui va arriver. On a l'équipe déjà qui est en place, on est prêt. Ça va bouger, on a déjà pas mal de réservations pour les événements, donc il va y avoir du monde. D'autant plus que tous les premiers samedis du mois, on a la rue commerçante qui est piétonne. Et ça tombe demain et on a le concert justement pour là, donc avec le beau temps, ça va être au top.
Le directeur a déjà une vingtaine de réservations pour la soirée. Il s'attend à encore plus de monde. Alors Céline et Vincent, si vous avez prévu un déplacement à Tarbes demain et que vous voulez passer la soirée là-bas...
Je crois qu'il a quelques engagements ici, mais bon.
Non, justement, pas ce week-end.
C'est vrai pardon. Bah alors allez-y.
Je vous invite, on va aller à Tarbes. Comment s'appelle-t-il Nico Wayne Toussaint?
Et je vous laisse justement en compagnie de ces notes de musique.
Ça serait sympa, quelques pas de danse sur Nico Wayne Toussaint, ça vous dit pas ce week-end à Tarbes?
La danse avec vous, je vois pas comment je peux refuser.
Ah, ça c'est bien, c'est gentil, c'est bien aimable surtout. Merci beaucoup en tout cas, et Margot Le Fur, à bientôt. Dans un instant, on revient sur ces scènes d'hyper-violence devant des établissements scolaires de collège, vous le savez, cette semaine, avec les affaires de Samara et Shamseddine. Comment expliquer une telle violence chez de si jeunes ados, presque encore des enfants? On en parle tout de suite avec la vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats.
Céline Landreau, Vincent Parisot.
RTL Midi jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Avec Vincent Parisot et Céline Landreau.
Il s'appelle Samara, Shamseddine, deux ados qui ont été tabassés cette semaine à la sortie de leur collège. Alors, on vous a beaucoup parlé dans les journaux d'RTL de ces drames qui choquent, qui interrogent aussi sur le rapport qu'entretiennent nos ados, nos pré-ados parfois, avec la violence extrême et parfois la violence quasiment gratuite.
Pour en parler avec nous, Cécile Mamelin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats et vous avez exercé pendant des années la fonction de juge pour enfants, juge aux affaires familiales. Deux agressions cette semaine, deux affaires très médiatisées, on le disait il y a quelques minutes avec donc ces drames de Montpellier et de Viry-Châtillon. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que cela signifie que nos ados sont plus violents qu'avant?
Alors, c'est très difficile, effectivement, de parler de la violence et de la quantifier, notamment au titre de son intensité. En réalité, les statistiques actuelles sont assez difficilement exploitables. En fait, la recrudescence qu'on peut constater de la violence, voire même de l'ultra-violence que peuvent constater les policiers, les magistrats eux-mêmes, elle manque d'indicateurs, en fait, pertinents. Puisqu'on n'a aucun élément, justement, statistique sur la notion d'intensité. Ça peut aller sur une simple claque, au véritable passage à tabac, comme ces faits divers, ces faits dramatiques qui se sont produits ces derniers jours et qui sont mis sur le devant de la scène. Mais en réalité, c'est très difficile de venir affirmer péremptoirement une augmentation significative de la violence et de l'ultra-violence.
Parce que des bandes, des rixes, il y en a toujours.
Les individus, ça, sont... Exactement. En fait, c'est un débat très récurrent. On en parle... on parle de cela depuis le début du XXe siècle, en réalité, selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ces débats étaient les mêmes. Régulièrement, on s'interroge parce que je pense que c'est l'âge des auteurs qui est particulièrement perturbant, notamment pour les parents de ces adolescents, de ces préadolescents. Mais en réalité, la violence chez les jeunes, comme j'allais vous dire, chez les majeurs, elle a toujours existé.
La moyenne d'âge n'a pas baissé.
C'est essentiellement une question... Oui. Alors, c'est difficile pour l'instant parce que si vous voulez, dans les statistiques du ministère de la Justice, on ne distingue pas en dessous de 18 ans. Il n'y a pas de distinction qui est faite. On ne peut pas vous donner de chiffres précis là-dessus. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'il y a une légère augmentation des faits d'homicide, c'est-à-dire les faits les plus graves, hein, qui conduisent effectivement au décès d'une personne, ont légèrement augmenté au cours de ces 10 dernières années. Mais en même temps, la part des mineurs, elle reste sensiblement la même. Hein. J'ai eu l'occasion également de me rendre compte qu'il y avait à peine 2000 mineurs par an qui étaient poursuivis devant le tribunal pour enfants, c'est-à-dire pour les faits les plus graves, ce qui, sur la totalité des personnes qui passent devant la justice, est quand même relativement faible. Il y a 32 000 auteurs qui sont renvoyés. Donc voilà, ça reste un pourcentage, fort heureusement, relativement faible.
Alors, vous le disiez, les statistiques ne permettent pas de distinguer un mineur de 17 ou de 12 ans qui aurait commis de tels actes. Mais vous, en tant que juge pour enfants, vous les avez vus dans votre bureau, ces jeunes agresseurs défilés. Qui sont-ils ? Est-ce que vous diriez que leur profil a changé au fil des années, de par votre expérience ? Qu'est-ce que vous avez constaté ?
Alors, il y a souvent à l'origine déjà des difficultés familiales, des carences éducatives. Bien souvent, lorsqu'un mineur devient délinquant, il a d'abord été un mineur en proie à des carences éducatives. Je ne dirais pas que c'est à chaque fois, mais bien souvent, il y a des problèmes dans le cadre de la famille, etc. Donc, ce qu'on peut constater, et je le disais tout à l'heure, c'est que il y a effectivement des adolescents plus jeunes qui commettent des actes vraiment violents. Ça, c'est un constat que l'on peut porter. On a effectivement nos collègues, des enfants qui se rendent compte que la proportion d'individus plus jeunes, c'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt aux alentours de 16 ans, maintenant, effectivement, c'est 14, 15 ans.
Mais ça veut dire aussi que peut-être à 14, 15 ans, ils n'ont pas conscience de l'extrême gravité de leurs actes.
Bien évidemment, mais tout ça c'est une question aussi de confrontation aux images qu'eux-mêmes peuvent voir. On est confronté maintenant sur les réseaux sociaux, sur Internet, à des images parfois violentes, sans parler même de la pornographie, etc. Mais donc les jeunes sont soumis à un flot d'informations et d'images qui sont quand même très négatives. Avant on en parlait, mais maintenant on les voit. Et je pense que si on ne met pas des mots là-dessus, et là bien sûr tout est une question d'éducation. Si on ne met pas de mots là-dessus, si on ne met pas en place tout ce qui est de l'ordre de la prévention, etc., de l'aide aux parents, ces jeunes, ils ont à mon sens une difficulté d'abstraction qu'on avait effectivement peut-être avant parce qu'on ne se rendait pas autant compte que la violence était prégnante.
Merci beaucoup Cécile Mamelin. Je rappelle, vous êtes vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats et vous avez pointé, c'est assez rare quand même pour le souligner, quand même pointé du doigt le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui qui amène ces jeunes à voir la violence et peut-être du coup à la banaliser, contrairement à peut-être à leurs aînés qui n'étaient pas confrontés à ces images. C'était très intéressant, on va pouvoir évidemment en débattre avec vous tous, si vous le souhaitez, au 3210.
Le standard est ouvert, on vous attend dès 13h. Avant ça, dans un instant, on va parler des dangers des régimes parce qu'ils peuvent provoquer des carences et de la dénutrition. À tout de suite.
RTL Midi, Céline Landreau et Vincent Parisot. RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, votre vie, hein, l'info, c'est ce qui fait votre quotidien, évidemment. Et aujourd'hui, en cette journée spéciale malnutrition sur RTL, Céline, on s'arrête sur la dénutrition.
Oui, moins connue que d'autres pathologies comme l'obésité, selon l'Observatoire de la santé ProBTP réalisé par Toluna Harris, elle est le résultat d'apports nutritionnels insuffisants et peut donc être aussi la conséquence de régimes inadaptés. Bonjour Jérémy Gorski.
Bonjour.
Vous êtes diététicien, nutritionniste, auteur de « Ce n'était pas qu'une histoire de poids », c'est chez First Edition. D'abord, soyons clairs, la dénutrition, ça peut être grave, même très grave.
Oui, effectivement, la dénutrition, déjà c'est un état pathologique. Pour faire simple, on est dénutri quand on perd du poids, des muscles et de la force, et que ça fragilise notre santé, finalement. Donc voilà, c'est la conséquence de régime. On la voit très souvent chez les personnes âgées, mais on la voit de plus en plus souvent aussi chez les adultes, et aussi chez les ados, surtout, qui peuvent souffrir de troubles alimentaires de plus en plus.
Des régimes qui sont radicaux ?
Des régimes radicaux, alors ça peut être des régimes à 600, 800 calories, comme on voit fleurir sur les réseaux sociaux, sur les magazines quand on approche l'été. ça peut être suite...
Un régime à 600, 800 calories, soyons... Enfin, parlons clairement, c'est impossible à tenir.
Alors, les personnes le tiennent avec la volonté d'être mince pendant l'été. Ça peut être induit aussi par des troubles alimentaires, très clairement, quand il y a de l'anorexie qui est associée, etc. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'injonctions aujourd'hui sur les réseaux. Moi, je suis créateur de contenu, surtout sur Instagram, mais je me balade aussi sur TikTok. Mmh. En fait, on est noyé, c'est ce qu'on disait juste avant dans l'émission d'avant sur la violence, on est constamment noyé sur les injonctions à perdre du poids, etc. Donc, il y a effectivement ces régimes à 600-800 calories qu'on va tenir. Il y a beaucoup de challenges perte de poids aujourd'hui sur les réseaux sociaux où les gens s'entretiennent les uns les autres. Mais on a aussi même les régimes les plus à la mode, on va dire, je pense aux jeûnes intermittents. Quand un jeûne intermittent qui peut être tenu à vie, on va dire, parfois il est très mal fait et on va avoir beaucoup de carences parce que on mange moins sur une petite fenêtre horaire, mais du coup, on supprime carrément un, voire deux repas, etc.
Les premiers signes de la dénutrition, justement, quels sont-ils? À quoi faut-il faire attention? Est-ce que ça commence par des malaises, une fonte musculaire, perte de la masse musculaire?
Effectivement, il va y avoir très souvent une fonte musculaire et des faiblesses. Alors, les faiblesses, ça peut être aussi dû à des hypoglycémies parce qu'on mange pas assez. Mais effectivement, on va être fragilisé au niveau musculaire. Si on donne des critères un peu plus précis, chez une population adulte, on va reconnaître ça avec un IMC inférieur à 18,5. Donc, ça a quand même ses limites. C'est-à-dire qu'une personne obèse peut être dénutrie, comme une personne obèse pourrait souffrir d'anorexie. Chez l'enfant, ça va être plutôt une cassure de la courbe ou une stagnation du poids. Idem chez les ados. Et pour les personnes âgées, on s'inquiète à partir d'un IMC qui est inférieur à 22. Et il y a un critère de perte de poids. On va être sur une perte de 5% du poids en un mois. Donc autant dire que les personnes qui se vantent sur les réseaux sociaux, par exemple, d'avoir perdu 4 kilos en une semaine, ces personnes, très souvent, elles sont dénutries. Mmh. Ou alors, c'est une perte de 10% du poids en 6 mois. Et on associe aussi un autre critère plus étiologique cette fois, avec une diminution de 50% des apports dans l'assiette.
Mais bon, évidemment, puis en plus, j'imagine que vous devez souvent le dire en tant que diététicien nutritionniste, c'est très bien de vouloir perdre du poids, mais le problème aujourd'hui, c'est que on fait face à des injonctions qui nous amènent à faire n'importe quoi.
Exactement. Bah les gens, de toute façon, moi je suis spécialisé en troubles alimentaires, donc je récupère les personnes qui ont souffert des magazines, des réseaux, etc. Et on a ces injonctions toujours à maigrir plus vite, plus. Et simplement cette injonction à perdre du poids, vous l'avez dit, il faut perdre du poids. En fait, c'est pas il faut perdre du poids, c'est poser la question déjà à la personne, est-ce que c'est important pour vous de perdre du poids? C'est-à-dire que les personnes, aujourd'hui, elles ont leur libre arbitre. Et la question principalement à poser à ces personnes, c'est ces personnes qui devraient se la poser, la question, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de perdre du poids? Est-ce que j'ai déjà un problème de poids vraiment? Ou est-ce que c'est la société qui me crée ces problèmes-là? Ou est-ce que j'ai un problème avec mon poids? Là, ce qu'on voit souvent avec les régimes drastiques, c'est qu'on y va toujours plus fort parce qu'on n'est jamais satisfait, alors qu'on a un poids, entre guillemets,
acceptable,
beaucoup de guillemets, normal, j'aime c'est pas ça. Le mot, ouais. Mais en fait, ça ne suffit jamais, parce qu'en fait, on a un problème avec notre poids, et là, c'est plus un côté image de soi, acceptation.
Et on a peut-être un problème avec nous-mêmes, à ce moment-là.
Exactement, et là, c'est plus le côté psychologie qu'on va devoir travailler en thérapie.
Merci beaucoup, Jérémy Gorski. Ce n'était pas qu'une histoire de poids, c'est votre ouvrage chez First Edition. Vous êtes diététicien, nutritionniste, et vous nous avez éclairé, merci pour ça.
Dans un instant, c'est le retour de l'info avec le journal de 12h30 et William Galibert. À tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30.
Céline Landreau, William Galibert.
À midi et demi, effectivement, aujourd'hui, votre grande édition de la mi-journée vous est présentée par William Galibert. Bonjour William.
Bonjour.
À la une ce midi, comment enrayer la violence à la sortie des établissements scolaires?
Après Montpellier, un nouvel adolescent tabassé dans l'Essonne, il a 15 ans, il est toujours entre la vie et la mort. Les favoris du Tour de France en piteux état après une énorme chute hier, on prendra quelques nouvelles. Et puis on a testé les trains ultra bon marché, mais ultra lents de la SNCF, bon plan ou pas, on vous le dit dans 5 minutes.
Juste après le journal, on reviendra sur cette décision de la justice de placer Alain Delon sous curatelle renforcée. Pas du goût de l'avocat de sa fille, Anouchka Franck-Berton, qui était sur RTL ce matin. Et puis, juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture, album, hommage à Michel Polnareff. Aujourd'hui, avec une pléiade de stars, Steven Bellery, elle viendra nous en parler. Enfin, à partir de 13h, c'est vous, Vincent, et ce sont les auditeurs.
Bah, ce sont surtout les auditeurs qui vont faire l'actualité, réagir à tous ces sujets, et pourquoi pas Polnareff après tout. Tout est possible. Non, évidemment, l'ultra-violence dans les collèges, on va en parler. Comment y faire face? Faut-il mettre un policier à la sortie de chaque collège? Vous pouvez réagir aussi à ce qu'a dit cette magistrate tout à l'heure sur le rôle des réseaux sociaux. Les eaux en bouteille, les eaux minérales en bouteille, plastique, sur le banc des accusés, une contamination généralisée des eaux de Nestlé a été mis en lumière. Est-ce que vous allez arrêter d'en boire? Est-ce que ça vous interroge ce scandale autour des eaux en bouteille? Et puis on parlera aussi de Dacia, du succès incroyable des automobiles Dacia. Est-ce que c'est le succès de l'antifrime? Dites-le nous, 32-10.
Le temps, Valérie Quintin, on enlève le pull, c'est ça, cet après-midi?
Bah, on commence déjà à enlever une petite épaisseur et puis ça va se confirmer encore demain. Mais c'est vrai que même cet après-midi, le mercure va atteindre les 30 degrés déjà au pied des Pyrénées.
Merci Valérie.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Mais comment stopper ces agressions aux abords des établissements scolaires?
Après Montpellier, cette fois c'est à Viry-Châtillon en Essonne qu'un ado de 15 ans a été tabassé, laissé pour mort à la sortie des cours, c'était hier, et il n'est pas encore tiré d'affaire, mais ce nouveau lynchage vient aussi percuter la communication gouvernementale sur l'école. Emmanuel Macron et la ministre Nicole Belloubet visitent tous les deux ce matin un établissement parisien. Nerissa et Mani, vous êtes à leur côté, ils viennent parler de l'école du futur, mais ils doivent aussi se montrer mobilisés sur les violences du présent.
Oui, car déjà, dès hier, le sujet percutait le déplacement du président de la République dans une piscine pour les JO. Rien ne justifie qu'on accepte qu'une jeune fille, une ado, soit agressée par plusieurs jeunes de son âge, avait dénoncé Emmanuel Macron en parlant de Samara, 14 ans, tabassée devant son collège à Montpellier. Alors aujourd'hui, certes, au menu du jour, nous avons des annonces sur la très attendue réforme de la formation des profs des écoles, bien loin du harcèlement et de l'ultra-violence. Et pourtant, le sujet est inévitable. Le président et la ministre de l'Éducation sont en plein point presse et nul doute que cette question va leur être posée déjà ce matin. Nicole Belloubet leur a demandé on me demande de me décaler.
Ne vous faites pas gronder, Nerissa. On a compris qu'il allait falloir réagir et pour le président et pour la ministre de l'Éducation nationale après cette nouvelle affaire. Merci beaucoup, Nerissa et Mani. Ce sont aussi les joies du direct à quelques centimètres du président de la République et de la ministre. Nerissa, qui est notre spécialiste éducation.
Justement, à Montpellier, l'inspection générale de l'Éducation nationale est sur place après l'agression de la jeune Samara.
L'équipe missionnée par le ministère a 8 jours pour dire s'il y a eu défaillance au sein du collège pour protéger la jeune fille le jour du drame, mais aussi de manière générale contre le harcèlement dont elle était victime. Mais il y a aussi l'enquête de police. Et là, on va retrouver Patrick Tégéreau en direct de Montpellier devant le palais de justice où 3 agresseurs qui étaient en garde à vue sont présentés au juge, Patrick.
Oui, et le parquet précise ce matin que tous 3 ont avoué leur participation au lynchage de Samara. Alors, parmi ces 3 adolescents, il y a une jeune fille. Les collégiens parlent d'elle comme d'une mauvaise fréquentation. On connaît sa réputation et sa violence à tout juste 14 ans. Elle a donc à peine 1 an de plus que Samara, sa tête de turc depuis la 6e. L'an dernier, cette harceleuse a été exclue 2 fois de suite grâce à des exploits sur ses réseaux sociaux. En mai, pour diffusion d'images inadmissibles, et en juin, pour avoir lancé un appel au viol, déjà, contre Samara. Elle a été la première interpellée mercredi matin. L'après-midi, c'était le tour de 2 garçons de 14 et 15 ans. Le plus âgé n'est pas au collège. Il est déjà connu des services de police. Le parquet annonce aussi avoir requis son placement en détention. Il aurait porté les coups les plus graves, ce qui confirme les témoignages. Tous les collégiens qui ont vu l'agression ont parlé de 3 personnes s'acharnant sur Samara qu'ils ont facilement identifiées. Alors ces 3-là ont reconnu avoir frappé. Tous 3 ont été placés en garde à vue pour répondre de tentatives de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Alors si ce motif est maintenu pour un adulte, la peine encourue est de 30 ans. Pour des enfants avec l'excuse de minorité, la peine est divisée par 2, c'est donc 15 ans. Tout à l'heure, ils ont été emmenés à l'hôtel de police, au palais de justice. Au palais de justice. Et on n'attend plus désormais que leur mise en examen.
Patrick Tégéreau, en direct de Montpellier pour RTL.
Le réchauffement climatique va nous coûter très cher. Un rapport remis ce matin nous donne d'ailleurs une idée de la facture.
Et là, on ne parle pas de déplacement de population, de choses très hypothétiques. On parle du concret, du quotidien, l'état de nos routes, de nos maisons, de nos réseaux électriques ou de chemins de fer. Virginie Garin, on comprend dans ce rapport qu'il va falloir faire des choix de société et on a déjà un avant-goût des milliards que coûterait une augmentation de la température de 2, 3 ou 4 degrés.
Oui, la tempête Alex, en 2020, dans les Alpes-Maritimes, a donné une idée des dégâts. En une seule nuit, une dizaine de ponts se sont écroulés et les 70 kilomètres de route qu'il a fallu reconstruire ont coûté 500 millions d'euros. Alors, au-delà des tempêtes, il y a les écarts de température qui fissurent les routes ou les canicules qui abîment les voies ferrées. Le rapport préconise d'augmenter les moyens mis sur la maintenance et que chaque construction neuve soit plus solide. Il y aura un surcoût, mais de quelques pourcents, alors que reconstruire à l'identique, c'est risquer à nouveau de gros dégâts et cela coûtera beaucoup plus cher. Ensuite, dit le rapport, tout dépendra des choix de la société. Soit on accepte que chaque été, des trains auront du retard à cause des canicules, certaines routes seront impraticables à cause d'inondations, soit on refuse et il faut tout sécuriser au détriment d'autres postes budgétaires. Et le rapport conclut, plus on attendra pour s'adapter et lancer des travaux, plus ça coûtera cher, donc il faut anticiper dans les 10 ans qui viennent.
Virginie Garin, notre spécialiste environnement.
Alors nous, on a trouvé des trains qui roulent déjà beaucoup moins vite, mais la SNCF en fait un argument de vente.
Après Paris-Lyon et Paris-Nantes, voilà Paris-Rennes en version tortillard. 4 heures tortillard. Au lieu d'une heure et demie. Tarif fixe, alors là, imbattable, entre 10 et 49 euros. La SNCF appelle ça Ouigo classique. Mais pour être très clair, Nathan Bocard, on a repeint des vieux trains corail en rose bonbon ou en bleu pétard.
Exactement, on garde même les vieilles banquettes rayées, on enlève juste les cendriers quand même. Et puis c'est reparti pour un tour, c'est ce recyclage en fait qui permet les prix cassés. Des prix qui ont attiré Florian, étudiant qui rentre en terre bretonne pour voir ses parents.
C'était pas cher, 13 euros par personne, c'était vraiment imbattable.
Ça vous dérange pas que ça dure aussi longtemps?
Bon non, on avait le temps du coup, vu qu'on était en vacances, on s'est dit tiens, pourquoi pas profiter du voyage.
Alors c'est vrai qu'en se baladant dans le train, on voit surtout des jeunes, casques sur les oreilles, livres dans les mains pour passer ces 4 heures et quelques, mais pas que. Leïla, elle va souvent voir son fils au Mans, d'habitude en voiture, mais là, le billet à 10 euros a tout changé.
En voiture, c'est 3 heures, faut payer le péage, etc. Donc quand on n'est pas trop chargé, en train, c'est mieux.
Alors il faut quand même rogner sur un certain confort. Pas de café, pas de prise électrique, sauf dans les toilettes. Et c'est pour ça que j'ai croisé Christophe, qui était son chargeur à la main dans une
caisse. À l'ancienne.
C'est-à-dire, il était aux toilettes, vous l'avez croisé. Votre lien, c'est pour ça, me fait un peu peur, Nathan.
J'y arrive, je l'ai croisé dans le couloir, en route vers les toilettes avec son chargeur à la main, il était en quête.
Ouais, une prise pour charger mon téléphone, parce que 4 heures de route, c'est vrai que le téléphone, il est vite déchargé.
Faudra mettre en économie de batterie.
Ah, ou aller longtemps en toilette.
Je vous rassure, Céline, Christophe, il est sorti des toilettes. Puisqu'à l'heure où l'on se parle, vraiment à la minute près, bien ce train parti à 8 heures arrive en gare de Rennes.
Merci beaucoup, Nathan Bocard.
Qui ne recule devant rien dans ses investigations. Merci, Nathan. Et puis, on prend des nouvelles des favoris du Tour de France, maintenant victime d'une terrible chute hier lors d'une course au Pays Basque.
Et Jonas Vingegaard, notamment double vainqueur du Tour. Je vous fais la liste, c'est assez effrayant. Clavicule et côte cassée, pneumothorax, contusion pulmonaire. Et le monsieur est toujours hospitalisé. Primoz, Roglic, Remco, Evenepoel, d'autres noms bien connus aussi ont abandonné. Il y a eu de la casse. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour.
Ce qui paraît dingue, quand on voit le nombre de fractures, d'omoplates, de clavicules qui ont pris très cher hier après-midi, c'est que malgré tout ça, eh bien, personne ne doute que ces champions seront sur pied pour la grande boucle au mois de juillet.
Oui, c'est vrai, au moment où l'on parle, tous ces favoris du Tour comptent bien être à Florence, en Italie, le 29 juin. Alors, programme chamboulé, évidemment, à court terme, par exemple pour le Belge Remco Evenepoel, clavicule et omoplate cassée, double vainqueur à Liège, il ne pourra pas s'aligner sur la doyenne des classiques dans 15 jours, Roglic aussi à l'arrêt, mais d'ici 3 semaines, un mois, sans doute davantage pour Vingegaard, plus durement touché, ils seront capables de retrouver les pelotons. D'une façon générale, il y a ce côté dur au mal, ça fait partie des risques, résume Pascal Chanteur, patron du syndicat des coureurs.
Le cycliste, quand il chute, il remonte sur le vélo. Il sort pas du terrain. C'est comme ça. On fait du vélo, hein. Et le vélo, ça fait mal. Le vélo, c'est de la souffrance. Quand on apprend à faire du vélo en minime, en cadet, ben, on est sujet aux chutes. On sait ce que c'est. Ça fait partie aussi du vélo. On est pratiquement nu sur notre vélo. Donc, quand ça chute, ça fait de l'abrasion, ça fait des coupures, ça fait des cassures, des fêlures, voilà.
avec une clavicule cassée. Certains remontent en selle sur Home Trainer au bout de 10 jours environ pour faire tourner les jambes simplement. Le Belge Wout Van Aert est tombé sur la classique à travers la Flandre il y a 9 jours. Fracture de la clavicule et du sternum, fracture de plusieurs côtes également. Il a effectué avant-hier une marche de 4 km. Il a mis 55 minutes et n'a pas encore renoncé à s'aligner au Tour d'Italie qui débute dans un mois tout juste.
Merci Monsieur Vélo, Nicolas Georgerot. Du football, Lille-Marseille, c'est à 21h et c'est le début de la 28e journée de Ligue 1.
Merci beaucoup William Galibert. La météo, Valérie Quintin, on vous retrouve pour cet après-midi.
Et déjà un parfum de printemps presque d'été, même pour les deux tiers sud du pays. Non seulement il y aura du soleil, mais en plus les températures commencent à grimper assez nettement. Il y a un petit peu d'instabilité tout de même dans le golfe du Lion et quelques entrées maritimes en Languedoc et en Roussillon avec du vent. Et puis sur un petit tiers nord, voilà, c'est un petit peu plus nuageux. On a de belles éclaircies tout de même le long des côtes de la Manche, mais quelques pluies faibles qui vont circuler tout l'après-midi entre la Bretagne, la Vendée, en allant jusqu'à la Lorraine et les Ardennes, en passant évidemment par le bassin parisien. 16 degrés à Lorient cet après-midi, 18 à Montpellier, 20 degrés à Paris et Lille, 23 degrés à Marseille et déjà un très gros 28 degrés à Bordeaux.
Merci beaucoup. Une courte pause et dans un instant, un guépard, Alain Delon, placé sous curatelle renforcée. Est-ce humiliant ? À tout de suite, 32-10.
Céline Landreau, Vincent Parisot,
RTL midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Vincent Parisot,
RTL Midi.
Est-ce la fin de la guerre familiale ou une étape de plus dans un conflit larvé ? Alain Delon a été placé sous curatelle renforcée. Décision prise hier par le tribunal de Montargis à la demande de ses enfants. Et ce matin, vous avez peut-être entendu sur RTL l'avocat d'Anouchka, Franck Berton, revenir sur cette décision judiciaire.
Je pense que cette mesure est excessive. Puis en plus, elle est humiliante quand même. C'est quelque chose pour lui qui est difficile à vivre ou doit être difficile à vivre.
Et bien sûr, là, on s'interroge et donc on vous convoque, Plana Radenovic, on a besoin de vos lumières. Bonjour tout d'abord.
Bonjour.
Pourquoi dénoncer ainsi, comme il vient de faire, une décision de justice que les enfants eux-mêmes ont demandé ?
Oui, en effet, ça semble un peu compliqué à comprendre. Bon, il y a eu cette réunion de famille début mars, c'était à Douchy, cette réunion que nous vous révélions dès hier soir sur RTL.
Donc je pense que cette mesure est excessive, puis en plus elle est humiliante quand même. C'est quelque chose pour lui qui est, me semble-t-il, difficile à vivre, ou doit être difficile à vivre. Alain Delon, c'est pas quelqu'un qui, je tiens à le dire, qui est incapable de s'exprimer, qui ne s'exprime pas, il regarde l'actualité, il regarde la télévision, il s'exprime, il y a une expertise en janvier qui s'est tenue, qui dit que il y a certes quelques altérations de son discernement, mais pas d'abolition de son discernement.
Bon, on a entendu Franck Berton qui vient d'expliquer un petit peu plus ce qu'il disait tout à l'heure. Mais lors de cette réunion, donc en mars, la juge des contentieux de la protection était présente, elle aussi. Et selon nos informations, les enfants étaient d'accord alors pour une curatelle renforcée. Mais voilà, peut-être qu'ils n'avaient pas bien compris ce que signifie vraiment cette mesure.
Alors expliquez-nous justement, Plana, en quoi elle consiste cette mesure, la curatelle renforcée, qu'est-ce que c'est exactement ?
En fait, c'est le dernier stade avant la tutelle, qui est la mesure la plus lourde. Là, la justice considère que l'acteur de 88 ans est capable de prendre certaines décisions pour ses propres intérêts. Enfin, ses libertés sont quand même très restreintes, puisqu'il n'est plus maître de tout ce qui touche à ses comptes. Il n'est plus libre donc de dépenser son argent comme il l'entend.
Donc ça veut dire, si on comprend bien, que cette décision de placement sous curatelle renforcée, Anouchka, la fille d'Alain Delon, n'exclut pas de la contester.
Et en effet, Franck Berton nous l'a révélé sur RTL ce matin.
Bah, Anouchka fera ce que son père fait.
C'est-à-dire que si son père fait appel...
Si son père fait appel, elle se joindra à son père.
Alors de notre côté, on a contacté ce matin l'avocate d'Alain Delon, Maître Bédossa, qui dit attendre la notification de la décision pour faire appel ou pas.
Et au-delà de l'aspect judiciaire, Plana, Franck Berton a donné aussi des nouvelles de l'état de santé d'Alain Delon.
Oui, en effet, c'est très important. Anouchka l'a vu il y a quelques jours à Douchy. Ils se sont promenés dans le jardin de la maison. Son père est bien sûr diminué, dit-elle, mais comme un homme de son âge.
Il va parfois bien, il va parfois pas bien, mais c'est un
monsieur qui a 88 ans.
Et voilà, il a 88 ans, il est atteint d'un cancer, des problèmes cardiaques.
Il a eu un AVC.
Il a eu un AVC, peut-être même une récidive d'AVC qui expliquerait peut-être l'état dans lequel de confusion mentale par moment dans lequel il est.
Une confusion mentale qui fait dire à Maître Berton que l'acteur ne se rend peut-être pas compte de la guerre fratricide qui règne entre ses enfants.
Bah ça vaut peut-être mieux, à la limite, hein, qu'il ne s'en rende pas compte, parce que cette guerre fratricide, elle est quand même un peu indécente. Merci de nous avoir éclairé, en tout cas, beaucoup sur cette question. Ça fait des semaines maintenant que les enfants de Long se déchirent publiquement. Malgré la décision de justice, on sent bien que tout n'est pas oublié.
Et non, parce que si Franck Berton a dit ce matin vouloir siffler la fin de la récré, il en remet une couche quand même sur le prétendu roman qu'Anthony vient de publier.
toute ressemblance avec des personnages ayant existé purement fortuite, c'est pas vrai, c'est voulu. C'est-à-dire que Anouchka, elle s'appelle pas Anouchka, elle s'appelle Mathilde dans le livre, et elle est dépeinte de manière horrible par son frère.
Enfin voilà, vous l'avez compris, on n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire de Long.
Il est possible qu'on vous demande de repasser nous voir pour nous expliquer une nouvelle fois tout ça. Merci beaucoup, Planar Radidovic. Dans un instant, votre rendez-vous culture LVT midi. Il était une fois, Paul Naref, un album hommage sort aujourd'hui. Steven Bellery l'a écouté pour nous, il vient nous en parler.
Un album hommage ? Il n'est pas mort, Paul Naref.
Il a 80 ans cet été.
Bon anniversaire en avance.
Jusqu'à 13h, RTL midi. Vincent Parisot, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter midi.
Laissez-vous tenter midi avec, on vous l'a dit, la sortie d'Il était une fois Paul Naref. C'est un album hommage, vous l'avez compris, au répertoire de Michel Paul Naref.
12 artistes revisitent ses chansons quelques mois avant son 80e anniversaire. Vincent Parisot lui a déjà souhaité. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Album de reprise très réussi selon vous.
Ouais, on le doit au label BMG, éditeur de l'artiste. Un projet collégial assez ambitieux, d'abord par son casting très éclectique, ensuite parce qu'ils ont laissé une liberté totale aux artistes. Ils ont eu carte blanche pour réinventer une chanson de leur choix et comme ils l'entendaient. Première réussite, la grande Catherine Ringer reprend un standard Love Him, Please Love Him. Mais, ah bah non,
bah c'est Love Me, Please Love Me.
Bah oui, j'ai déjà fait l'erreur. Et elle a changé le texte.
Love Him, Please Love Him. Il est fou de vous. Pourtant, votre lointaine froideur déchire aussi mon cœur.
Audace, on reste en 1966. Kurt Smith, la voix du groupe Tears for Fears, a adapté le tout premier succès de Michel Paul Naref en anglais. Voici sa version de La poupée qui fait non en duo avec sa fille.
C'est une poupée who says no, 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 no. No matter what I say, she says no.
Alors, qu'en dit le principal intéressé, Michel Paul Naref ? Il a adoubé le projet ?
Oui, il a d'ailleurs été très touché par la démarche. Michel me l'avait confié l'an dernier en marge de sa tournée.
J'adore quand je vois une autre vision de mes chansons. Oui, contrairement à ce qu'on m'a toujours dit, oui, on n'ose pas faire des trucs. Ben si, il faut oser, c'est génial. Oui, ben, c'est formidable, ça m'a beaucoup ému, ça honore beaucoup. Pas quelque chose qu'on regarde d'en haut, c'est quelque chose qu'on partage. Très belle version par Indochine, entre parenthèses.
Si une heure un soir on pouvait se revoir. Je dis des mots stupides et vides d'espoir. Il faut me pardonner, je ne me suis pas encore habitué.
1968, mes regrets revus et corrigés par Indochine. Le groupe de Sirkis avait déjà retravaillé le titre en 96 en live en le mélangeant à Troisième Sexe, on s'en souvient. Cette chanson était dans l'album Le Bal des Lazes, titre que Laurent Voulzy magnifie avec orgue et harpe.
Vu pour la première fois à la télé, j'étais en répétition avec un groupe de lycéens. On répétait chez un des garçons qui jouait avec nous. Et je trouvais que Paul Naref, d'un seul coup, je trouvais que c'était parfait. C'était vraiment la synthèse entre la chanson française et la musique d'Angleterre, par exemple. C'était à la fois original et à la fois sa musique me touchait, quoi. Ses arrangements, ses idées, tout ça. Et je suis infiniment reconnaissant aux gens qui m'ont donné envie de faire de la musique et qui m'ont inspiré. Et en fait, le Bal des Lazes, on l'a enregistré à l'église Saint-Eustache.
Qui était le rêve de Michel Paul Naref.
Oui, je l'ai su après. Et là, je me suis dit, avec les grandes orgues de Saint-Eustache, ça va être magnifique. Et en plus, on l'a fait avec une chorale. On est arrivé le soir, très tard, après qu'il y ait des offices. Et c'était très, très beau, quoi.
Je serai pendu demain. Tout est arrivé ce soir de juin. On donnait une fête dans le château.
Steven, la jeune génération aussi est au générique de cet album. Il était une fois Paul Naref.
Oui, à l'image de Pomme, tout en délicatesse, elle s'approprie une chanson de 1971 qui a tué grand-maman.
Il y avait du temps de grand-maman, des fleurs qui poussaient dans son jardin.
Je suis trop
trop trop contente d'avoir participé à ce projet. J'ai eu la chance d'avoir une carte blanche et d'avoir la possibilité de faire ce que je voulais. C'est une reprise que je faisais déjà depuis un certain temps, parfois sur scène. Et en fait, j'ai créé un arrangement pour chorale d'enfants parce que moi j'ai appris à chanter dans une chorale d'enfants et j'ai chanté pendant 10 ans dans une chorale à Lyon qui s'appelle La Cigale de Lyon, de mes 8 à mes 18 ans. C'est là où j'ai appris la technique vocale et à placer ma voix justement. J'ai confié la partie chorale de cet arrangement à une chorale amatrice, enfin vraiment une chorale d'enfants non professionnels qui ont interprété cette partie de chorale à plusieurs voix que j'ai écrite. Et c'était hyper émouvant parce qu'il y avait vraiment pour moi exactement cette idée de faire une boucle avec la façon dont j'ai appris à chanter, avec cette ambiance de chorale que j'ai vécue dans mon enfance et en même temps le présent aujourd'hui, la personne que je suis devenue.
Qui a dit grand-maman, est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer le temps?
C'est beau ça, hein?
Qui est plus grand-maman?
C'est une chanson écrite par Michel Polnareff d'ailleurs. Plus pop, plus groovy, le duo Lilywood and the Prick a jeté son dévolu sur Radio.
Benjamin et moi, on adore faire des reprises. On s'est un peu rencontrés comme ça quand on avait 20 ans. Et c'est un exercice qui est super décomplexant, qui est super agréable. Ouais, c'était une récré.
Et le choix de ce morceau, pour nous, était assez intéressant parce que c'est vraiment un titre des prémices des années 80. Son côté le plus pop qu'il ait pu avoir, Polnareff, dans sa carrière, est assez anglo-saxon et qui nous représente assez bien. Donc il y avait ce côté très décomplexé aussi.
Ça a été vraiment fluide.
Ouais, très fluide.
C'était une fois Polnareff. L'album hommage sort aujourd'hui.
Merci. Ouais, mais merci. Vous avez une chanson préférée de Polnareff? Je sais pas, je vous demande. Non.
Là, tout de suite.
On ira tous au paradis, non?
Bah, surtout quand c'est chanté par Zinedine Zidane en 98.
Forcément. Merci, Stevie. Et vous aussi, une chanson
Lettre à France.
Ah, Lettre à France, forcément. Un grand classique. Merci. On peut en parler, si vous voulez. Pourquoi pas de Polnareff?
Demain, surtout, grand studio exceptionnel.
Évidemment,
hein,
spécial Polnareff. Avec qui?
Avec Catherine Ringer, Yael Naïm, Pomme ou Voyou, ce sera à 18h15.
Avec Eric Jean-Jean
pas?
Évidemment.
Exactement.
18h15, rendez-vous, hommage à Polnareff, un véritable tribute sur RTL. Merci beaucoup, une courte pause. On vous retrouve maintenant au 3210 et on vous rappelle l'essentiel de l'actualité dans un instant.
RTL Midi.